Chapitre 5. Juna est installé dans la salle de loisirs de l'école d'Enskede, en compagnie d'Astrid, l'un des enfants trisomiques dont s'occupe Saga. Astrid a 11 ans. Elle a de longs cheveux bruns, des grands yeux rêveurs et de petites épaules potelées. Son visage dégage quelque chose de joyeux. Devant elle est posée une boîte remplie de vernis à ongles. Tandis qu'elle aligne ses couleurs préférées devant Juna, elle lui énumère le nom de chaque nuance.
« Rouge-noir ?»
dit-elle en montrant un flacon. « Joli, » répond-il.
« Tu le choisirais ?»«
Je sais pas, j'aime bien le rose aussi. » Elle fouille dans la boîte, puis pose devant lui un autre petit flacon en verre.
« Ladylike ?»«
Mon préféré. » Juna est venue directement en voiture de Kapelskär, tandis qu'Erickson est resté sur l'île avec 6 autres techniciens. Le petit port naturel est en fait une plage de sable située sur la côte ouest de l'île Rocheuse. Le corps a été traîné sur le rivage, mais les empreintes de pas ont été balayées. Erickson a relevé quelques traces dans les bois, mais étant donné la prudence du tueur, il est peu probable que l'une d'entre elles lui appartienne. Une nuée de mouches bourdonnait autour du pied et des mucosités répandues dans l'herbe. Au téléphone, Erickson a expliqué à l'aiguille que les restes ressemblaient au contenu de l'estomac d'un prédateur. De la nourriture partiellement digérée. L'intérieur du sac est fait dans un caoutchouc grossier et je suppose que l'auteur a utilisé de la soude caustique pour dissoudre le corps, a-t-il continué. Juna essaie de ne pas y penser. Mais il est possible que Margot ait été encore en vie quand la décomposition chimique a commencé. Sous l'effet de la concentration, la bouche d'Astrid n'est plus qu'un trait fin et ses longs cils frémissent derrière ses lunettes, tandis qu'elle peint les ongles de Juna en rose.
« Pardon ?»
murmure-t-elle en souriant, lorsqu'elle lui met accidentellement du vernis sur le bout du doigt. « Mes ongles sont trop courts. »«
Oui, mais ce sera quand même joli. »«
Très joli. » sourit-il. Juna suit des yeux les coups de pinceau de la petite fille. Et peu à peu, la ride profonde sur son front s'estompe, laissant une ligne pâle qui disparaît lentement au fur et à mesure qu'elle pose le vernis. Saga l'a appelé pour lui dire qu'elle devait le voir immédiatement, mais quand il est arrivé, elle était en train d'aider Nick à prendre une douche après son match de foot. Juna remercie Astrid, puis commence à souffler sur ses ongles au moment où Saga et Nick entrent dans la salle. Saga est vêtue d'un jean bleu pâle, de baskets et d'un pull en laine islandais. Ses longs cheveux sont rassemblés en une tresse serrée et son visage n'est pas maquillé. Juna se lève et leur montre ses doigts.
« Ouah !»
dit Nick en riant. « Classe !» sourit Saga. Juna remercie de nouveau Astrid et dit qu'il ne s'est jamais senti aussi beau. Ils sortent du centre de loisirs et Saga s'assure que les enfants montent bien dans le bus scolaire avant de rejoindre Juna sur le trottoir baigné de soleil. « À quoi ressemble la vie d'une détective privée ?» demande Juna avec un sourire en coin.
« C'est en fait assez insupportable. »
« Désolé de l'entendre. »«
Ouais,
mais il me faut un travail. Je suis en fin de droit. »« Tu sais que tu peux toujours m'emprunter de l'argent si... »«
Je sais. »
l'interrompt-elle.
« Merci, mais ça va, je peux me débrouiller. » Faut juste que j'arrive à réintégrer la police.
Bien sûr.
En fait, j'ai postulé à la NOA.
Pas à la CEPO?
Non, je crois que j'en ai fini avec eux. J'ai besoin d'être sur le terrain. Je suis doué pour les enquêtes criminelles. C'est ce que je sais faire de mieux.
Mais en fait, je rêve de travailler avec toi. Ce serait merveilleux, répond-il en lui souriant. Mais ils n'étudieront pas ma candidature tant que je n'aurai pas reçu le feu vert de la psychologue. C'est le passage obligé.
Il faut vraiment que j'y arrive,
dit-elle sans le regarder. Pour obtenir la recommandation de la psychologue de la police, Saga doit prouver qu'elle se connaît bien, que son humeur est stable, qu'elle est capable de gérer ses finances, d'avoir une vie sociale et, de préférence, une relation amoureuse durable.
Bref, je t'ai demandé de venir ici parce que je n'ai qu'une demi-heure avant ma prochaine réunion de travail.
Explique-t-elle en s'arrêtant devant sa moto.
« Mon patron me fait chier. Mais tant pis, parce que je suis obligé de... » Bon, bref. Je sens qu'il faut vraiment que je te parle de la découverte à Kapelskär. Je peux pas te dire qui m'en a parlé, mais...
Randy.
Je ne dis rien.
Sourit-elle. cœur de Juna se serre quand il voit que le regard bleu pâle de Saga a retrouvé son intensité de chasseuse. Elle sort une pochette de son sac à dos et la lui tend. À travers le plastique trouble de la chemise, on peut voir une carte postale qu'elle a reçue il y a plus de 3 ans. « J'ai un pistolet de la marque Makarov, couleur rouge sang. Le chargeur contient 9 balles blanches. L'une d'elles est pour Juna Lina, la seule personne qui puisse le sauver. C'est toi. » Arthur K. Joel. Juna hoche la tête d'un sourire entendu, puis retourne la carte postale et regarde la photo. Une vue en noir et blanc datant de 1898 du vieux cimetière du choléra à Kapelskär où les restes de Margot ont été retrouvés. Je sais. Mais Jurek Walter est mort, dit-il.
Beaver est vivant.
Il est emprisonné pour meurtre en Biélorussie. On a essayé de le faire rentrer en Suède, mais on n'a pas réussi à obtenir d'accord d'extradition. Beaver a été recruté par Jurek et lui est resté loyal jusqu'à sa mort. Après ça, il a disparu sans laisser de traces jusqu'à l'année dernière, lorsqu'Interpol l'a identifié dans une institution en Biélorussie. Une brise légère souffle dans la rue. Quelques boucles blondes se détachent de la tresse de Saga et frappent son visage.
Ok, mais j'ai la sensation que ce tueur, d'une certaine façon, vient de la lignée de Jurek.
Je sais vraiment pas, Saga. Cette histoire de cimetière est effectivement une étrange coïncidence. C'est vrai. Mais je ne vois pas comment le meurtre de Margot pourrait avoir un rapport avec moi.
Mais ça a un rapport avec toi, j'en suis sûr,
l'interrompt-elle en retournant la carte postale.
Je crois que la mort de Margot est une sorte d'apostille, comme une note de rappel signifiant que la menace contre toi est réelle.
Cette carte a 3 ans, objecte-t-il.
Mais c'est aujourd'hui que ça se passe.